Chapitre 7 Sur la place de l'église. Les cloches sonnaient la fin de la grand-messe. L'enfant de cœur répondait « Deo gratias ». Comme au jour de sa jeunesse, comme aux dernières années du XIIe siècle où elle fut bâtie au sommet de l'îlot de Salerten, la petite église, toute jaunie à présent par les lichens et les giroflées de murailles, voyait la foule de ses fidèles vêtus de la même façon qu'autrefois, s'écouler dans le même ordre, franchir les mêmes portes, former sur la place les mêmes groupes homogènes. « Il va sortir !» disait la grande aimée Massonneau, la fille du glorieux de la terre Aymon. « L'avez-vous vu, ce pauvre Mathurin Lumineau? Il a voulu venir à la messe. Dieu l'en dispense pourtant. »« Oui, » répondit la petite Rousse de Malabry. « Voilà 6 ans qu'il n'a pas reparu dans Salerten. »«
6 ans, vous croyez ?»«
Je me souviens, c'était l'année où ma sœur s'est mariée. » « Et pourquoi pensez-vous qu'il soit venu ?» demanda Victoire Guérineau de la Pinsonnière, une méchante langue et une jolie fille qui avait la peau rose comme une églantine. « Car il a dû prendre sur lui pour venir. »«
C'est par honneur pour le père, » dit une voix. « Le vieux est si triste depuis qu'Éléonore et François sont partis. »«
C'est pour se montrer avec son frère André, » dit une autre. « Un beau gars, André Lumineau, et s'il voulait de moi ?»
Victoire Guérineau se mit à rire avec les autres et reprit.
« Vous n'y êtes pas, il vient pour féliciter Gauvry. »«
Oh, oh !» dirent toutes celles des premiers rangs. « Vous êtes méchante, si elle vous entendait. »
Et plusieurs se détournèrent vers le perron des Michelonnes, près duquel se trouvait, au milieu d'un petit rassemblement, l'ancienne fiancée de Mathurin Lumineau. Mais presque aussitôt une rumeur courut.
« Le voilà, le pauvre, comme il a du mal à se porter. »
En effet, sous l'ogive badigeonnée, dans l'encadrement de la porte basse ouverte à un seul battant, un être difforme s'agitait. Serré entre le mur et le montant de bois, il luttait pour se couler par ce chemin trop étroit. Une de ses mains, soulevant une béquille, s'accrochait à une des colonnettes de la façade et tâchait d'attirer le corps. Une épaule seule passait, avec la tête rejetée un peu en arrière, la tête souffrante qui disait la violence de l'effort et la puissance d'une volonté qui ne cédait jamais. Mathurin Lumineau paraissait étouffé. Il ne regardait personne dans cette multitude dont il était le point de mire. Son regard, un peu au-dessus des filles de Salerten, là-bas, fixait le clair du ciel avec une expression d'angoisse qui agissait sur la foule. Les conversations s'interrompaient, des voix commençaient à murmurer.
« Secourez-le donc, il étouffe !»
Quelques hommes firent un mouvement pour se rapprocher de l'infirme et l'aider. En ce moment même, dans l'ombre de l'église, invisible, le vieux père demandait.
« Veux-tu que je t'emporte, Mathurin ? Ça ne passe pas. Veux-tu ? »
Et l'autre répondait tout bas, avec un accent d'énergie terrible que personne dehors ne pouvait saisir.
« Ne me touchez pas. Boudre, ne me touchez pas, je sortirai seul. »
Enfin, le buste énorme se dégagea et fut projeté en avant. L'homme eut de la peine à éviter une chute et à reprendre son aplomb. Quand il put s'arrêter, il caressa sa barbe fauve et remit son chapeau que la secousse avait déplacé. Puis, tenant serrées ses béquilles, s'appuyant le plus qu'il pouvait sur ses jambes, Mathurin Lumineau regarda droit en face de lui et s'avança sur les groupes d'hommes qui s'ouvrirent silencieusement. Personne n'osait l'aborder, on avait perdu l'habitude de le voir. On ne savait pas ce qu'il allait faire. Mais toute l'attention s'était concentrée sur lui et nul ne remarqua le métayer André Marie-Rose qui sortait derrière lui et cherchait à le rejoindre. L'infirme atteignit bientôt l'endroit où les jeunes filles étaient rassemblées. Elles s'écartèrent comme les hommes, plus rapidement même, parce qu'elles avaient compris ce qu'il voulait. Un chemin se fit parmi elles et s'allongea jusqu'aux maisons. Alors, au fond de cette avenue vivante, bordée de robes noires et de coiffes blanches, on vit, contre le mur des Michelonnes, toute seule, debout, Félicité Gauvry. Elle était le but, elle le savait. Elle avait prévu son triomphe. Dès qu'elle avait aperçu Mathurin dans le banc des Lumineaux, elle s'était dit « Il vient pour moi. Je me cacherai au fond de la place et il me poursuivra. » Car elle était fière de montrer qu'on l'aimait encore, cette grande et superbe fille que personne ne voulait épouser. Les femmes qui causaient avec elle s'étaient prudemment éloignées. La maréchine restait seule sous la fenêtre des Michelonnes. Droite, habillée d'étoffes raides et lourdes comme une poupée de musée, ses bandeaux bruns luisant sous la coiffe très petite, le teint d'une blancheur insolente, le cou dégagé, les bras tombant le long de son tablier de moire, elle regardait venir à elle entre deux haies de curieux, son fiancé de jadis.
tant de visages haussés ou penchés vers elle ne l'intimidaient pas. Peut-être reconnaissait-elle, sur le dos de Mathurin, la même veste qu'il portait le soir du malheur. À son cou, la même cravate qu'il avait tirée de l'armoire. Elle demeurait calme et hardie, elle souriait même un peu. Lui, il arrivait, suspendu entre ses béquilles, les yeux fixés non pas sur sa route, mais sur Félicité Gauvry. Ce qu'il voulait, le pauvre gars, c'était la revoir, et c'était aussi lui faire entendre que la santé renaissait en lui, qu'une espérance se levait sur sa misère et que le cœur de Mathurin Lumineau n'avait pas varié. Ses yeux sombres disaient tout cela tandis qu'il s'approchait. Il offrait en prière lamentable les longues souffrances de son corps et de son esprit à celle qui les avait causées. Mais ses forces le trahirent. Il devint d'une pâleur extrême quand la belle fille, devant tout ce monde, lui dit la première. « Bonjour, Mathurin. » Il ne put répondre. D'avoir vu sourire les lèvres pourpres de la maréchine et d'être si près d'elle et de l'entendre parler du même ton que s'il s'était quitté la veille, il défaillait. Il renversa un peu sa tête rousse entre ses béquilles vers Driot qui se trouvait en arrière. Le regard suppliait. « Emmène-moi. » Le cadet comprit et passa le bras sous le bras de son frère. Puis il répondit tout haut pour donner le change et distraire l'attention de la foule. « Bonjour à vous-même, Félicité. Voilà des temps que je ne vous ai vu. Ça ne vous change pas. »« Ni vous, » dit-elle. On entendit quelques rires, mais il y eut, dans le nombre de ceux qui étaient là, des âmes qui pleurèrent secrètement ou qui s'attendrirent. Quelques-unes des plus jeunes, parmi les filles de Salerten, s'émurent de pitié pour le malheureux qui s'en allait confus, épuisé, soutenu par le bras d'un autre. Elles plaignirent l'infirme qui n'obtiendrait jamais un amour comme celui que chacune d'elles, en son cœur, préparait et promettait aux fiancés inconnus. L'une murmura. « Il n'est pas malade seulement des jambes, ça lui tient tout l'esprit. » Plusieurs femmes, des mères qui s'en retournaient avec leurs enfants, ralentirent la marche en voyant le groupe qui descendait vers la route de Chaland. Le vieux Toussaint, André et Mathurin, Marie-Rose en arrière. Elles se souvinrent avec un frisson de peur du magnifique adolescent qu'avait été l'infirme et elles songèrent. « Pourvu qu'il n'en arrive point autant à nos fils qui grandissent. » Félicité Gauvry commençait à s'émouvoir à son tour, mais d'une émotion différente. Après le départ des Lumineaux, la curiosité s'était rapidement détournée d'elle. Une partie des hommes entourait le garde champêtre qui, monté sur une borne, publiait les objets perdus et les fermes à louer. Une partie entrait dans les auberges. Les jeunes filles, par petites bandes, se réunissaient pour le retour. À chaque moment, on voyait cinq ou six coiffes blanches avec des saluts qui les inclinaient et les relevaient, se séparer des autres et descendre à droite ou à gauche. Félicité, qui était demeurée seule plusieurs minutes sous la fenêtre des Michelon, rejoignit un de ces groupes qui devait se diriger vers le haut marais à l'ouest de Salerten. On l'accueillit avec un peu de gêne, comme une fille compromettante, avec qui l'on ne veut pas se brouiller mais que les mères recommandent de ne pas fréquenter. Des cris partirent à son adresse quand elle passa devant les auberges, des agaceries de jeunes gens rassemblés et buvant. Elle ne répondit rien. Ses compagnes et elle dévalèrent le petit coteau qui porte les maisons du bourg et s'avancèrent alors en plein marais sur la route qui mène au Perrier. En cette saison, et lorsque les pluies d'automne n'ont pas encore été abondantes, on peut se rendre à pied sans le secours des yoles dans beaucoup de métairies. La levée de terre, raboteuse et mal entretenue, flanquée de deux fossés pleins d'eau, filait au milieu des prés. Le vert fané des herbes vêtait l'étendue sans colline, sans mouvement d'aucune sorte, jusqu'à l'extrême horizon où il s'embrumait un peu. Des chevaux qui paissaient tendaient le cou et regardaient passer le petit groupe noir et blanc dans l'immensité uniforme. Des canards, entendant du bruit, se coulaient dans les joncs qui tremblaient de la pointe. De loin en loin, un remblai en dos d'âne, plus étroit, s'embranchait sur la route. Une des jeunes filles se détachait du groupe et gagnait par là quelques maisons lointaines, dont on ne devinait la place qu'à une touffe de peupliers montant du sol comme une fumée. Félicité Gauvry sortait un instant de sa songerie, disait « au revoir » et se remettait à marcher silencieusement. Bientôt elle fut seule sur le chemin qui continuait à fuir vers la mer. Alors elle ralentit le pas et s'absorba toute dans sa méditation sans témoin. Elle n'était pas heureuse. Le père Gauvry, à 65 ans, s'était remarié avec une fille de 30, une coureuse de grève, qu'il avait été chercher à la barre de Mont et à qui il avait donné en droit de jeunesse le plus clair de son bien. Cette jeune belle-mère n'était pas tendre pour Félicité.
Chacune d'elles reprochait à l'autre, non sans raison d'ailleurs, de trop dépenser et de ruiner la maison. Le frère aîné, douanier au Sable d'Olonne, joueur et viveur, menaçait perpétuellement le bonhomme d'un procès en reddition de compte, l'intimidait et puisait aussi, par ce moyen, dans le capital bien diminué des Gauvry. La vieille famille, qui avait tenu un rang dans le Marais, déclinait rapidement. Félicité ne s'en apercevait que trop. Les jeunes gens de Salertaine et des paroisses voisines venaient volontiers aux veillées de la Celière, dansaient, buvaient, plaisantaient avec elle, mais aucun ne s'offrait à l'épouser. La ruine probable, les divisions de la famille écartaient les prétendants. Mais une autre raison, plus vraie et plus profondément entrée dans les esprits, empêchait les fils de métayer et jusqu'au simple valet de ferme de demander la main de Félicité Gauvry. C'était une sorte de lien d'honneur, une dette de fidélité, rendue plus sacrée par le malheur et que l'opinion publique s'entêtait à maintenir entre la Celière et la Fromentière. Dans la pensée de tous, Félicité Gauvry était demeurée comme une alliée des Lumineaux, une fille qui n'avait pas le droit de retirer sa promesse et qu'on ne devait pas rechercher en mariage tant que Mathurin vivrait. Quelques-uns éprouvaient aussi, peut-être, une crainte superstitieuse. Ils auraient eu peur de se mettre en ménage avec une fille dont le premier amour avait été si malchanceux. Toutes les avances qu'elle avait faites avaient échoué. Elle s'en était irritée et aigrie. Dans son dépit, elle avait été jusqu'à regretter que l'infirme n'eût pas été tué sur le coup. S'il était mort, lui qui vivait à peine, elle eût recouvré sa liberté. Le passé eût été vite oublié, tandis qu'il y avait là, pour le rappeler à tous, dans la paroisse même, un pauvre gars errant sur des béquilles autour de la ferme qu'il aurait dû gouverner. Elle avait trouvé quelquefois que la mort mettait bien du temps à achever ses victimes. Puis elle s'était ressaisie. En fille avisée, elle avait compris que l'opinion la liait, malgré elle, aux Lumineaux, et que par eux seulement elle pouvait réaliser l'ambition qui la possédait, sortir de la Celière, échapper à la domination de sa belle-mère, gouverner une grande ferme, être plus riche et plus libre qu'elle n'était chez elle. Elle qui n'avait jamais aimé, qui n'était qu'une créature de vanité comme la campagne en a quelques-unes, elle s'était dit « J'attendrai, je ne retournerai pas à la Fromentière afin qu'on m'y regrette toujours plus. Un jour Mathurin viendra à moi ou il m'appellera. Je suis sûre qu'il ne m'a point oubliée. C'est une folie, mais qui me servira. Grâce à lui, je rentrerai chez eux, je les reverrai tous. Le vieux qui se défie de moi, mais qui cédera, les jeunes qui m'aimeront parce que je suis belle. Et j'épouserai François ou André. Je serai métayère comme je devais l'être dans la plus belle ferme de la paroisse. » Or, François, qu'elle avait essayé de séduire, s'était dérobé, mais voici que Mathurin était venu à elle. Au prix de fatigue et de souffrance sans nom, il s'était traîné jusqu'à Salertaine pour la saluer publiquement. Et André, devant toutes les filles du bourg, avait dit « Voilà des temps que je ne vous ai vus, vous n'avez pas changé. » La belle fille avait cueilli un de ces iris jaunes qui poussent en grand nombre dans les fossés du Marais. À demi rieuse, elle songeait à ce triomphe de tout à l'heure, la fleur pendante au coin de la lèvre, laissant baler ses bras qui, à chaque pas, frôlaient avec un murmure la moire du tablier. Le sourire s'en allait très loin comme le regard à la vague limite des prés. Elle songeait qu'André ferait un joli mari, plus élégant que n'était même autrefois Mathurin, qu'il n'avait du reste qu'un an de moins qu'elle, qu'il avait eu une manière plaisante vraiment et assez hardie de lui dire « Vous n'avez pas changé ». Elle pensait aussi « À la première occasion, je les inviterai à veiller chez nous. Je suis sûre qu'André viendra. » Lentement, elle marchait sur la levée raboteuse et ardente de soleil. Les grillons chantaient midi, l'odeur âcre des roseaux fanés passait par intervalles, et, tout entière à son rêve, Félicité Gauvry ne s'apercevait pas qu'elle était presque rendue chez elle. Elle eut comme un réveil douloureux en remarquant tout à coup une blancheur dans les prés à droite. C'était la Celière. En même temps, un doute s'éleva dans son esprit, question inquiétante, mauvaise fin de rêve. Si André se dérobait lui aussi, ou bien si Mathurin, grisé comme il le serait par le moindre mot de souvenir, et devenu plus pressant et plus jaloux encore, devinait trop tôt ce qu'on méditerait autour de lui. Au-dessus du canal, sur le milieu d'un pont en dodane qui reliait les prés à la route, Félicité Gauvry s'était arrêtée. La grande créature souple étendit les bras au soleil, fronça dans un moment de colère ses sourcils bruns et cracha la fleur d'iris qui tomba dans l'eau. Puis, l'ayant suivi du regard, elle se mira une seconde et se redressa souriante. « Je réussirai, » dit-elle. et, descendant le talus du pont, elle gagna la Selière par la traverse.